Radio Silence, bonjour. Nous sommes le dimanche 27 février. Vous écoutez Flash sur le monde par Elise Mbok depuis Yaoundé. La guerre en Ukraine, apparemment, c'est le grand titre de l'actualité. Alors, j'ai regardé et c'est vrai que c'est Monsieur Zemmour qui fait une analyse équilibrée sur la situation, encore qu'il ne s'agit pas tellement d'équilibre ici, mais en diplomatie, c'est ça le mot, l'équilibre. Et cette analyse équilibrée montre très bien que l'OTAN n'a plus de raison d'être, parce que pour justifier sa présence, cet organisme est obligé de jouer à la provocation permanente. Vous savez, ils sont allés, ils veulent s'élargir parce qu'il faut bien exister, et en voulant s'élargir, ils vont empiéter sur le domaine de l'ex-pacte de Varsovie, qui, lui, n'existe plus. Alors, qu'est-ce que Poutine devait faire? L'Ukraine, venir élargir l'OTAN à l'Ukraine? Non, M. Zemmour fait bien de le signaler. Ce n'est pas possible et la France ne peut pas cautionner ce genre de choses parce qu'elle fait partie de l'Union européenne ou du commandement intégré de l'OTAN. Donc, il faut sortir de ce commandement et effectivement être indépendant et de façon à prendre position en fonction de la logique et de l'histoire et de l'équilibre du monde, parce que les États-Unis ne peuvent pas être la seule puissance, puisqu'ils ont démontré qu'en étant seule puissance, soutenue par en fait les États-Unis, c'est Israël qui commande. C'est un masque, hein, les États-Unis, c'est un masque d'Israël, c'est un faux nez d'Israël. En montrant cette volonté d'hégémonie d'Israël et de ses rejetons, comme on dit, ça ne peut pas marcher. Bon, peu importe d'ailleurs que ce soit Israël ou pas, tant qu'il y a un monde unipolaire, ça ne marche pas. L'équilibre est obtenu par deux personnes. On est d'ailleurs à la veille du 8 mars, où on parle de l'égalité homme-femme. Ici où je suis, dans cette campagne qui s'appelle Boutmakak, dans le sud du Cameroun, la région, c'est la région d'Union Ekile, celle qui a connu la naissance et la mort de Oumniobé, le père de l'indépendance. Le sujet du 8 mars, c'est égalité homme-femme, comment faire pour un avenir durable. Alors, c'est quoi cet avenir durable? C'est qu'en fait, il faut être deux pour que le monde avance. Il faut être deux. C'est vrai pour la famille et c'est vrai pour tout le reste. Donc, il faut deux partenaires pour que ça avance. Il faut un monde au moins bipolaire, sinon multipolaire, pour que les choses avancent. Parce qu'après, dans la famille, il y a les enfants. Aujourd'hui, on nous fait un monde qui est homosexuel. Vous voyez, unigenre, voilà, unisexe, et ça ne donne pas, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui est là et puis vous autres, vous êtes des clones. Donc, la mode elle-même et tout le monde, toute la globalisation fonctionne à cette idéologie de l'homosexualité qui est cachée, mais c'est ça en fait, c'est-à-dire le même qui se reproduit. On est dans un multiclonage complet et c'est dommage parce que tous les hommes ne sont pas couchés. Voilà, Poutine n'est pas couché et il ne peut pas accepter, comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. S'il reste là tous les jours à surveiller que les États-Unis vont, M. Biden va donner l'ordre d'attaquer la Russie alors qu'elle a provoqué personne, mais oui, on va pousser la Russie à la faute, on dira qu'elle a envahi, c'est ce qu'il voulait, l'Ukraine, etc. Ben, le jeu est trop gros, on a vu ça partout ailleurs et maintenant, ça se voit. Alors, il y a un article du Breitbart qui est très intéressant, qui est intitulé, c'est même pas un article, c'est un digest, un résumé de ce qu'il pense de la situation en Ukraine et qui dit que Kiev est calme et continue ses activités normalement, comme si rien ne s'était passé. Donc on crie ailleurs au loup, mais les frères entre eux Ils ont compris un peu le jeu. Kiev ne manifeste rien. Et pourquoi ailleurs on crie alors que Kiev lui-même ne dit rien? Vous voyez, c'est déjà un problème d'une forme d'immixtion dans les questions intérieures et des, si on veut dire, des guerres intestines et qui, en l'occurrence, n'existent pas. On a voulu les crier de l'extérieur, comme d'habitude, pour déstabiliser et le monde et l'Ukraine, qui depuis d'ailleurs que la révolution, je ne sais pas laquelle là, avec Timoshenko, est dans une, pas une impasse, non, mais complètement bouleversée, dans un chaos, parce que ces révolutions commandées de l'extérieur comme ça étaient déjà habitées, c'était déjà des masques. De ce qui se montre aujourd'hui, le projet de l'OTAN de s'élargir jusqu'en Ukraine, quel est l'intérêt vraiment? Quel est l'intérêt? Il faut dissoudre l'OTAN, point. Ou alors, oui, il faut dissoudre l'OTAN dans les casques bleus. C'est l'ONU qui doit prendre en charge la sécurité dans le monde, quitte à ce que l'OTAN soit comment dirais-je, une arme. Voilà, se tienne juste là à la disposition de l'ONU. Ça n'a plus de sens, cet OTAN-là. Si, et en plus, qu'est-ce qu'on voit? Elle rentre, l'organisation rentre dans une forme d'ingérence dans la vie des sociétés. Et pire, on rentre maintenant dans une forme de modèle antidémocratique où on vient contester la légitimité de M. Poutine via des opérations comme celle-ci, alors que M. Poutine a été élu par son peuple. Alors évidemment, l'opposition à Poutine va en profiter pour dire, ah ben voilà, vous voyez, on génère comme ça du désordre et du chaos dans des sociétés plus ou moins équilibrées. Ça ne peut pas manquer l'opposition, mais si c'est comme ça qu'on veut donner un coup de pouce à l'opposition qui, dans ces nations fragiles de l'Est et du Sud, sont totalement à la merci de la corruption du monde, ça peut pas marcher, ça peut pas marcher. Et cet article du Breitbart dit quoi? Dit que les sanctions n'auront aucun effet, la preuve. La bourse à New York est restée égale à elle-même, et d'ailleurs même c'est son meilleur jour depuis novembre 2020. Vous vous rendez compte, le meilleur jour de la bourse. Donc, à cette allure, c'est inquiétant, malgré les discours alarmistes du président Biden, qui aurait pu faire croire que les choses vont aller, vont, enfin, que la bourse aurait pu s'alarmer, voyez, et s'emballer. Non, non, au contraire, c'est comme si on appelle ça un non-événement. Alors, vous voyez déjà une forme de schisme entre les alarmistes de l'Union européenne qui hurlent, qui crient, et M. Biden qui sanctionne, et puis la bourse qui reste froide, égale à elle-même. Au contraire, elle est euphorique. Donc c'est un premier indicateur qui n'est pas bon pour les gens de l'OTAN. Et le deuxième, c'est, il poursuit l'analyse, que la Russie n'est pas vraiment engagée dans le grand business financier international, dont des sanctions sur elle, les transactions, ça ne va pas tellement le faire, ça ne va pas avoir un impact suffisant. En revanche, la Russie, elle est engagée dans tout ce qui est commerce du gaz et du pétrole, parce qu'elle est productrice de cela. Là, il peut avoir plus ou moins des soucis, mais c'est pareil. Qui c'est qui va souffrir? C'est pas l'Amérique qui a des réserves et qui a même sa propre production. C'est l'Union européenne qui est le premier client du gaz et du pétrole russe. Donc, ce qui va se passer, d'après, j'ai pas retenu le nom de, je le marquerai, vous l'aurez peut-être en résumé, ce qui va se passer, d'après, mais c'est le patron de Breitbart, hein, voilà, il fait souvent un résumé comme ça sur un événement important ou sur la semaine, puis c'est ça qu'on appelle un digest en anglais, c'est-à-dire un résumé, et ce qu'on pourrait appeler une revue de presse, mais c'est sur un événement saillant, ouais, un point saillant par contre. On va y arriver. Donc il dit finalement, il y aura pas, c'est l'Union européenne qui va en souffrir, mais en revanche, en contrepartie, il y a un effet boomerang pour l'Amérique, c'est que la raréfaction du gaz et du pétrole sur le marché mondial, du fait des sanctions, si on donnait des sanctions comme celle-ci à la Russie, va avoir un impact sur ce marché, et cet impact va créer des tensions inflationnistes aux États-Unis. Voilà, et déjà que l'Amérique a des problèmes d'inflation, on parle ça de bid-inflation. Alors, si on ajoute cette inflation-là, qui peut avoir d'autres conséquences et des répercussions, notamment sur la vie chère, mais en plus sur le mandat même du président Biden qui va affronter des élections cette année, qui est déjà critiqué à la fois pour le retrait de l'Afghanistan catastrophique, l'inflation rampante, mais qui va devenir galopante. Alors du coup, voilà, pour Monsieur Biden, il joue à se tirer une balle dans le pied à moyen terme. Là, en novembre, bon, il y a des élections pour changer la House, ben, les représentants et tout, c'est pas bon pour les démocrates, c'est pas bon pour Monsieur Biden. Cette course comme ça vers le pouvoir n'a aucun sens. Et du coup, les sanctions aujourd'hui, j'ai vu, les sanctions allaient s'appliquer uniquement à M. Poutine et à M. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères. Bon, gel des avoirs, là, 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 on connaît la récitation. Et on voit très bien que ça, c'est un pis-aller. Vous voyez, c'est un échec. On essaye juste une fuite en avant, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, c'est triste tout ce qui se passe dans le monde. Si l'Amérique croit que la politique désuète de la force est encore celle qui va marcher, c'est un peu. Bon, je ne qualifie pas, mais vous-même vous donnerez un qualificatif à cela parce que ça n'apporte pas de l'ordre dans le monde, c'est encore un peu plus de désordre. Qu'est-ce que je peux ajouter sur le plan international? Ben, c'est l'événement du jour, de l'heure, du moment. Donc on en parle, parce qu'il faut en parler. Bon, tous les autres candidats à la présidence vont hurler avec les loups, c'est bien, c'est leur problème, c'est même leur droit. J'ai vu qu'il y a M. Bellamy, qui est un élu qui parraine M. Zemmour. J'ai pensé au livre Bellamy. Je ne sais plus qui l'écrit, c'est Guy de Maupassant ou c'est. Pas Guy de Maupassant, oh là là, le nom m'échappe là tout d'un coup. Bon, je ne sais plus si c'est lui, mais Bellamy, bon, c'est toute une histoire assez bizarre. C'est une histoire de cougar, en gros, voilà, avant l'heure, c'est une histoire de cougar, mais je cherche Bellamy, je ne suis pas sûr que ce soit Guy de Maupassant. C'est une histoire de. Ah, j'ai le nom de l'auteur qui vient, mais qui parle, mais peut-être c'est lui, mais je crois pas. Et l'histoire de Cougar, je ne vois pas très bien le rapport, mais bon, il faut prendre hein, ce qui arrive suite à l'initiative de M. Bayrou, qui, au nom de la démocratie, demande à ses élus de parrainer un peu tout le monde, comme ça, au hasard. Mélenchon a rejeté l'offre parce que c'est trop gentil, effectivement. Bon, enfin, c'est à la fois l'initiative de M. Bayrou, elle est digne, elle est noble. Bon, puis à la fois, on ne sait jamais le fait du prince, qu'est-ce que ça donne après, qu'est-ce que vous lui devez, on est redevable de quoi? Vous savez, en politique, tout se monnaie, tout s'achète, tout se négocie. Il est un peu en retrait sur son initiative, mais bon, on va savoir. On verra, mais je crois quand même que tous les candidats auront leur parrainage. Sinon, c'est vraiment un contresens absolu. Et on ne peut pas continuer avec ce système où il faut aller monnayer les parrainages des super élus, parce que eux, c'est pas seulement les. On disait quoi? Les grands électeurs aux États-Unis, les grands citoyens, les citoyens exceptionnels, dont on se rend compte d'ailleurs que pour la majorité des cas, ce sont de grands voyous. Sinon, au Cameroun, il y a un drame qui se joue. S'il faut-il garder le sélectionneur qui a perdu ce qui était attendu ici avec beaucoup de triche, comme d'habitude. Puis, il y a surtout un fait marquant, c'est que M. Essomba, un consultant très en vue ici, qui intervenait sur Vision 4, une chaîne financée 100% par l'État camerounais. Vous savez, la plupart des millionnaires sont en fait fabriqués à l'exception de quelques-uns, bien sûr, comme on dit à l'exception, toute chose étant égale par ailleurs, à l'exception de l'exception. La plupart de tout ce que vous voyez comme milliardaires sont financés par l'État, d'une manière ou d'une autre, et surtout, ils vivent des failles au niveau des impôts, des failles au niveau du contrôle des paradis fiscaux, des failles juridiques par-ci par-là, en termes de monopole, de trust, vous voyez, qui font que finalement ils sont en position dominante et puis ils s'enrichissent comme ça à l'œil devant tout le monde. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. C'est le cas des multinationales. Hein. Elles sont pas riches parce qu'elles sont forcément les plus formidables, les plus exemplaires. Elles sont riches justement parce qu'elles exploitent toutes ces failles, notamment les lois. Qui antitrust qui s'applique pas à elles, et puis leur force de nuisance et de colonisation des territoires. Monsieur Issoumba, donc ce grand consultant en économie, il intervient tous les dimanches, il intervenait et il parlait plus de politique d'ailleurs que d'économie. C'est dommage parce que ici au Cameroun, on parle que de politique à toutes les sauces et on en parle de façon. Comment vais-je dire? C'est une ritournelle, c'est-à-dire c'est tellement évident, il faudrait peut-être prendre des choses par l'autre bout. Et il a été viré, il a été viré, manu militari, parce qu'il a critiqué le fait que l'épouse morganatique, ah le grand mot de François Mitterrand, a fait comme a opéré une forme de hold-up ou de coup d'État en termes politiques lorsqu'elle se présente à l'ouverture. Et peut-être à la fermeture aussi des jeux du football, là, de la dernière CAN. Monsieur le Président, alors qu'il fait son tour, le Président Biya en saluant, on voit une tête qui apparaît, c'est Madame, elle force le passage, elle se place à côté de lui, elle aussi se met à saluer. Là, c'est un scandale parce qu'on s'est dit, ben, elle n'est pas élue, elle salue les gens en vertu de quoi? Et surtout, est-ce le protocole qui a failli? Est-ce Madame qui prend le pouvoir? Bon, beaucoup de questions. C'était gênant, il a rappelé ça, et puis il a rappelé aussi que. Tout ceci arrive dans son explication parce que le président est déjà âgé, au bout de 40 ans, il ne peut plus, avec son âge, avoir toutes ses capacités qu'il avait avant. Et que dans tous les pays du monde, c'est évident. Donc, il faut qu'il délègue. Et quand il délègue comme ça, il faut qu'il y ait la transparence dans la délégation. Sinon, lui-même, le président serait victime d'un coup d'État ou d'une forme de séquestration. Par un clan autour de lui, lequel clan inclurait Madame, donc le cousin, je ne sais pas trop, un membre de la famille, et le secrétaire général de la présidence, et qui est très en vue, Monsieur Ngongo, qui a d'ailleurs été invité à la dernière réunion, au dernier sommet, je crois, Union africaine, Union européenne, quelque chose comme ça. Et c'est lui qu'on voit, on voit pas le président, c'est lui qui avance, donc il faut donc officialiser les choses afin qu'on sache très bien. Qui fait quoi? Il a été viré, manu militari, tout de suite. Et le journaliste qui l'interviewait, monsieur Bidjan, je sais plus trop, lui aussi a été viré, parce que lui, ce journaliste, les gens ne comprennent pas pourquoi il a été viré. Mais si, il a été viré, il avait deux émissions phares, il a été viré parce que il n'arrêtait pas de donner du docteur à monsieur Issoumba. Alors on est ici, en pleine. Je vais dire, c'est le voleur, enfin, qu'on dit l'arroseur arrosé. À la fois, vous ne pouvez pas être exemplaire. Et puis, monsieur Issoumba a beau dire qu'il n'est pas docteur, ce journaliste n'arrête pas de lui dire docteur, docteur, lui donner du docteur, parce qu'ici, vous savez, en Afrique, on existe par le doctorat, lequel doctorat, très souvent, beaucoup de thésards n'ont pas écrit eux-mêmes leur thèse, ils ont payé d'autres vrais thésards pour leur écrire la thèse. D'autres bénéficient des jurys très très doux, hein, parce que membres du parti, parce que membres de tel clan, du clan de gouvernement. Bon voilà, c'est des doctorats qu'on distribue comme ça qui n'ont pas vraiment une grande valeur. Hein, et puis ici, il y en a tellement, 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 et on voit que les ingénieurs qui sortent des écoles, on ne voit pas où ils sont dépossédés par les multinationales sur le terrain. Avant, il y avait des ingénieurs agronomes qui assistaient les agriculteurs. On ne voit pas trop. Moi, en ce moment, je fais l'agriculture. Ah, je suis dans l'agriculture. Et je vous raconterai une autre fois comment. C'est mon petit frère ici, moi ça j'ai pas peur de le dire parce que j'ai porté l'affaire auprès du sous-préfet, qui est le premier. On est dans les villages, hein. Des gangs villageois comme vous ne pouvez pas imaginer, l'État a abandonné les villages aux gangs, les sous-préfets craignent pour leur survie, leur tête, la gendarmerie, service minimum, et puis parfois il faut payer, ça c'est partout ici, enfin, c'est très bizarre, la loi c'est la loi de la jungle, la loi du plus fort. Ceux qui ont les tronçonneuses, ils coupent du bois sur les territoires qui ne leur appartiennent pas parce qu'ils infiltrent le territoire et trouvent un maillon faible qui va vendre le bois à des prix extraordinaires, lequel maillon va s'établir en chef de gang pour terroriser tout le monde et toute la population se taire et ne dit rien. Alors moi, j'ai mon champ. Qui est vandalisé pratiquement. On essaye de s'introduire par la force, et c'est mon petit frère que j'ai sorti l'autre jour de tôle qui mène le balai, qui est instituteur quelque part. Il était directeur d'école, il a été relevé de ses fonctions pour des trucs. Je ne vais pas raconter tout ça. Bon, l'État connaît tout ça, mais la justice ici, la sécurité, c'est un grand problème. Un grand problème parce que ben, l'État est concentré sur les grandes villes pour faire des actions de promotion, des actions de propagande, parce que cette canne, je vous en avais parlé, elle a profité à tout le monde, sauf au peuple, sauf au territoire, sauf à tout ce qu'il fallait réémerger. C'est pareil que la décentralisation. Les maires ne sont pas en poste, ils continuent à travailler à Yaoundé, ils sont à Yaoundé tout le temps. Un absentéisme exceptionnel dans les mairies. Ce genre de choses, la mairie, on ne sait plus maintenant d'ailleurs qui s'occupe les prérogatives. Est-ce le maire, est-ce le sous-préfet qui fait quoi? Mais c'est la loi de la jungle. Donc ici, j'essaye de faire, j'ai commencé par faire un champ, un hectare. J'ai planté beaucoup de régimes de plantain. Ils ont été volés, et volés, et volés, et volés. Chaque fois que je vais à Yaoundé, on vole. Et apparemment, l'instigateur, c'est toujours mon frère qui lui-même se sert comme il veut. Dans les villages, c'est pas que moi, je le raconte parce que c'est partout pareil. Des gens qui traînent là, qui viennent sur d'autres territoires pour demander un lopin de terrain, mais en fait, c'est des brigands. Ils s'infiltrent pour commencer à couper le bois, pour commencer à voler les choses de ceux qui sont sur place. Puis le champ a été vandalisé, je vous en avais parlé ici plusieurs fois. J'ai entrepris cette année d'essayer de l'élargir. Et en l'élargissant, en l'agrandissant, parce que l'idée c'est quand même ici de mettre du cacao dans le champ, il faut donc des hectares, j'ai une portion, et là, bah, mon petit frère a fait venir des gens qui m'ont encerclé de partout. Pourquoi je suis allé chez le sous-préfet? Dès que j'avance de ce côté, je trouve que quelqu'un a commencé, un étranger est arrivé, j'avance de l'autre côté, un étranger, l'autre côté. Lui-même ne se montre pas, et c'est parsemé comme ça de partout. Cet endroit où je suis, il n'y avait personne de ce côté-ci. Mon père leur a donné de l'autre côté chacun sa parcelle de terrain. Mais puisque je suis ici, que j'ai peut-être un projet, ça c'est le sous-développement camerounais, c'est que si vous avez un projet, que vous venez, les locaux qui se plaignent de la pauvreté sont vos premiers opposants et vos premiers saboteurs. Ils sont là pour vous menacer. Ah oui, d'ailleurs, hier, il m'a menacé de mort, que me tuer ici dans le champ, parce que j'ai demandé à des étrangers qui étaient là, qui ont commencé à travailler alors que je leur ai dit pas de partir, à l'issue d'un conseil de famille élargi ici au village, qui a demandé de faire partir les gens. Et on avait d'ailleurs dit ici, une loi a été prise, plus d'étrangers qui rentrent ici pour commander le territoire. Mais que voulez-vous? L'Africain, il bavarde, il prend des décisions, il prend des actes, mais il n'applique jamais. Après, c'est le désordre permanent et on vient voir les institutions internationales pour leur demander de l'aide. La pauvreté, être pauvre est un métier. Être pauvre ici, c'est un métier, c'est un gangstérisme d'abord derrière, c'est une mendicité sans fond, c'est une sauvagerie établi, institué. En fait, être pauvre, c'est tout un métier qui part d'une psychologie qui est très, très africaine d'ailleurs, mais sauf s'il y a une distorsion entre-temps, je ne sais pas. Mais c'est le pauvre qui entretient lui-même le sous-développement, vous voyez? Donc le pauvre est content que les choses soient ainsi pour qu'il continue à jouer au filou, pour qu'il continue. Vous savez, c'est un métier de faire semblant d'être pauvre, mais en fait, on n'est pas pauvre, on est méchant, on est jaloux, on est saboteur. C'est très compliqué, l'âme noire. On a parlé des âmes ici. L'âme noire est très compliquée. Alors, en sorte que chaque membre de la diaspora qui vient ici, qui veut établir un projet, soit le projet est capté au niveau de Yaoundé, Douala et tout cela par les institutions. On vous rackette, Et après, vous ferez rien, on le sabote, on confisque le projet, on essaye de l'exploiter. Mais comme on n'est pas l'auteur, on ne peut pas. On le capte là-bas, on le sabote. Soit vous venez dans les villages pour faire, vous savez, la terre maintenant, c'est un grand projet, l'écologie, l'environnement. Et là, vous allez trouver d'autres brigands, et c'est jamais loin de votre propre famille. Il y a toujours un membre de la famille qui est installé là. C'est jamais loin de la famille élargie qui est jalouse du fait que quelqu'un d'autre. Alors il me demande, mais tu es en France, tu as fait des années, voilà les gens de propos. Tu as fait quoi? Tu es revenu là-bas, t'as rien. Et ça, c'est des gens qui n'ont pas cessé de vous sucer jusqu'à la moelle. Et c'est normal qu'ils fassent comme ça parce que l'État est lui-même filou et voyou. Enfin, c'est la vérité. Et le peuple et les pauvres sont à l'image de l'État. Donc du coup, tous ces gens-là ont intérêt à rester pauvres. Vous voyez, parce que quand vous êtes pauvre, vous faites que sucer les organisations internationales en toute irresponsabilité et dans la criminalité organisée, voilà, depuis le haut. Et il n'y a rien à faire. L'Afrique n'est pas seulement mal partie, elle s'embourbe elle-même dans sa mélasse et dans sa médiocrité profonde. Elle s'embourbe elle-même dans sa noirceur et dans sa cupidité sans fond. C'est des gens, ils ont toujours faim. C'est des gens, ils ont toujours envie de boire. C'est des gens, ils sont désœuvrés. Ils travaillent à minima pour gêner les autres. Et quand vous les laissez même faire, ils font quoi? Ils font rien. On me dit, je suis docteur en friperie. Vous savez, quand je suis venu, j'ai ouvert un magasin, un petit magasin, je pense au développement, bon, un petit magasin de fringues, et effectivement, j'ai acheté ce qu'on appelle la friperie, mais c'est vraiment pas la friperie, c'est des habits neufs, soldés, vendus au kilo. J'ai commencé par ça, c'est ce qu'il y a ici, bon, il faut s'intégrer. Et quand tu le fais, ceux qui bouffent à ta main, ceux qui pourront jamais venir en France un jour, pour y avoir un diplôme encore plus, ce qui, je m'en fous, vos propres frères et toute la localité commence à acheter, puis elle se dit, ah non, il ne faut pas acheter, il ne faut pas, parce que si vous continuez à acheter, on jette une omerta, n'achetez plus. Et après, on dit, oh, fais là quoi, fais un doctorat en friperie. Bon, évidemment, c'est facile de dire ça, c'est les mêmes, ils portent vos vêtements, vous leur avez donné, vous avez fait moins cher. Et à côté de ça, quand vous allez à l'université, le docteur en friperie devient un super docteur qui fait peur à tous les faux docteurs qui sont sur place, sans compter les réductions d'âge et les demandes de prolongation de la retraite. Vous voyez, il y a des gens qui ont là-bas 72 ans plus et tout, et des super enseignants, mais ils vont vous dire qu'à 60 ans, vous êtes trop vieux. Vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est lamentable, c'est tout un système. Si vous n'êtes pas né au Cameroun, vous ne resterez pas au Cameroun. Parce que ça va vous dégoûter. À un moment, les travailleurs, vous les embauchez, c'est pareil, ils jouent aux pauvres. Donc quand on joue aux pauvres, c'est un métier de racket. Tout simplement, en rigolant, en faisant pitié. Faire pitié, c'est un marché. C'est là le marché de la pauvreté. Il faudrait un rapport là-dessus. Je crois que ce que j'ai appris ici, c'est beaucoup de choses. Quelqu'un disait que la forêt tropicale se reconstitue très rapidement. J'ai vu un article comme ça là en Côte d'Ivoire, dans une forêt. Moi, je suis là-dedans parce qu'au début, en 2 ans, les 3 premières années, j'étais souvent malade. Je ne venais pas, j'envoyais les gens. Ils n'ont fait que me mentir sur toute la ligne. Alors moi, je ne connaissais pas la forêt. Là, je suis rentré dans la forêt. Rentrer dans la forêt, je vois des choses extraordinaires. Bon, la forêt tropicale se reconstitue aussi facilement que possible parce que naturellement, les arbres et les lianes et tout forment une structure opaque, c'est incroyable. Quand vous coupez un endroit, de voir ce que ça forme comme structure, en sorte que même les arbres morts, les bois morts, continuent à soutenir la structure. Et c'est formidable. Du coup, ça crée des creux d'ombrage qui font que la végétation commence à pousser tout doucement. Ils se lient entre eux. Ils forment une solidarité. Il faudrait que l'humanité, qu'on montre un peu la forêt. Je vais essayer de faire des photos parce que l'idée m'est arrivée très tard. J'ai pas un bon appareil photo. Tout ça coûte cher. Il n'y a pas d'argent ici. Vous allez travailler par là. Vous offrez vos services. On ne veut pas parce que vous aurez de l'argent. Et on ne veut surtout pas cela. Vous voyez comment les plantes et les arbres et les lianes et tout ça s'entrelacent et forment une structure tellement opaque, on dirait un mur. Ah, c'est formidable. Donc, comment ne pas se reconstituer? Parce que pour détruire déjà ça, pour couper ça, c'est pas facile. Donc j'ai vu une expérience comme ça ici. pas prévu parce que l'université, ça donne pas. On peut pas enseigner si de toute façon on enseigne quoi? Pour laisser tomber dans la médiocrité. Un monde qui n'a pas de culture, qui croit pas à la culture, qui croit pas à l'art, à la beauté. Moi, je sais pas ce que c'est, sauf à la beauté singée. Je vois pas du tout ce que ça peut donner. Parce que dans l'art, il y a l'élégance, il y a le savoir-vivre, il y a beaucoup de choses. C'est ça qui fait d'ailleurs la force de la France, du luxe français, le savoir-faire français. Le savoir-vivre français, la tradition française, toutes ces choses perdues qui aujourd'hui, je sais pas, j'ai entendu qu'il y a une école qui a dit qu'elle n'allait plus enseigner les humanités, tout ce qui est sociologie, philosophie, littérature, va bannir tout ça, on va faire des ingénieurs purs et durs. Mais on va au mur, on va dans le mur, on va construire des gens qui sont bêtes et idiots, qui vont faire quoi? Vous croyez que quand on conçoit un projet architectural, quand on construit Paris, ce sont seulement les ingénieurs? Il faut bien qu'il y ait quelqu'un, un urbaniste, qui pense la ville, qui pense, je veux dire, il faut, et quand on apprend à penser, c'est pas forcément en étant seulement technicien, il faut arrêter. Donc on est dans des interprétations au rabais ou biaisées. Qui ne donne rien parce qu'on est tombé dans ce que je vous ai dit, le marché de la délinquance pauvre qui profite aux gangs, que ce soit au niveau du village ou au niveau institutionnel, au sommet de l'État, en passant par tous les fonctionnaires qui, la plupart du temps, sont tous corrompus et véreux. Et on est surpris de voir que les policiers installent des barrages. Je suis à bout de ma caque pour aller à Boumbiébel. Il y a trois barrages sauvages. À chaque barrage, vous donnez 500 francs CFA, 500 francs CFA. Donc, quand vous allez à Boumbiébel, vous devez préparer 1 500 francs de frais de corruption. Des barrages sauvages installés et plus 200 francs que la mairie aussi prend, les routes non entretenues d'ailleurs. Et ça fait que c'est tout un écosystème qui enrichit qui? Les flics, les gens qui sont sur la rue. Qui contrôle ça? Personne. Oui, il paraît qu'il y a quelqu'un, une haute autorité qui contient cela. Mais ça fait quoi? Ça rentre dans le marché de la pauvreté parce que le gars qui part, qui transporte des gens, le transport, c'est déjà l'équivalent, l'aller simple, c'est déjà l'équivalent de ces 1 500 francs. Et puis s'il fait un retour, il sera allé pour rien parce qu'il aura acheté du carburant, il a pris une personne, il revient, ben, somme nulle, zéro. Donc voilà, la pauvreté, elle s'entretient entre les pauvres. Il y en a qui subissent plus que d'autres, la loi du plus fort et la loi des institutions. Mais c'est un projet sans fin tant que ni le FMI ni la Banque mondiale n'ont les vrais rapports. Et c'est vrai que des gens comme moi qui ont réussi par... je sais pas, tout à fait un hasard à rester sur place pour voir ces choses-là ne sont pas nombreux. Beaucoup arrivent et ils démissionnent tout de suite. Et c'est le but en fait. On essaye, on vous effraye, on coupe les arbres qui tombent sur votre champ, détruisent des choses. Vous voyez, c'est le but. Vous allez vous plaindre auprès de qui? Si vous allez vous plaindre, et je m'arrête là, si vous allez vous plaindre, c'est vous qui payez. Et l'autre, il ne va rien vous rembourser. Hein. Il vous crée des dommages parce que le but, c'est que vous dépensiez votre argent autre chose que le projet pour faire foirer le projet. Vous irez à la gendarmerie, vous plaindre qu'il y ait des menaces de mort. Il n'y aura pas de suite. Pareil qu'il faut donner l'argent. Ensuite, peut-être ça ira chez le procureur, peut-être ça n'ira pas. C'est pas sûr. Le sous-préfet, il n'a même pas la force d'aller dire, on vous convoque. Moi, je suis allé chez le sous-préfet, j'étais convoqué, j'ai porté l'affaire auprès du sous-préfet. Il nous a appelé la première fois. Je suis allé, mon petit frère n'est pas venu. On a pris un deuxième rendez-vous. Quand il m'a menacé de mort hier, il m'a dit, je viens pas. Je suis pas obligé de venir. Voilà, un fonctionnaire exemplaire, je viens pas. Le sous-préfet apparemment n'a pas la main pour forcer, donner force mon petit frère habite devant la sous-préfecture. Il n'a pas la main pour fo donner force aux forces de l'ordre d'aller ramener le monsieur. Vous voulez faire quoi? On joue à quoi ici? On singe la France? On joue à quoi? C'est des choses, c'est des aberrations. Mais c'est comme ça. Les gens ils vous en prennent l'argent, vous ne paieront pas. C'est tout un cirque, un cirque. Oh, le pauvre, c'est un numéro quoi, spécial. Un numéro spécial, surtout le pauvre noir. Parce qu'il y a les vrais pauvres chez les blancs, mais chez les noirs, c'est une culture. C'est une culture et c'est même une identité. Amis de Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le monde par Elise Mbok. Je vous dis à bientôt. et priez pour moi parce que le projet coûte cher, cher, cher. Je vous dis même pas. Je vous raconterai une autre fois comment le pauvre s'organise pour vous coûter cher. Et puis de façon à ce qu'après, vous n'avez plus d'argent pour faire le projet. Il y a beaucoup de projets ici qui abandonnés. Certains arrivent, commencent, ils laissent tomber, commencent à construire des maisons, ils se disent, oh là, ils laissent tomber, commencent des champs, ils laissent tomber. Font aussi, oh, alors le territoire est un champ de ruines entre les taudis et les logements abandonnés parce que c'est pas vivable, c'est absolument affreux. Le sous-développement, je ne sais même pas si c'est le sous-développement, j'appelle ça l'âme noire. Amis de Radio Silence, je vous dis à bientôt. Je vais vous ajouter un post-scriptum sur la procédure ici. Alors, pour la terre, parce que nous parlons de la terre, les conflits de la terre dans les territoires, dans les villages. Alors, normalement, chacun a son coin, sa parcelle. Et là, dans mon cas, mon petit frère quitte sa parcelle pour venir sur la mienne, en violation totale, parce qu'il estime que lui, c'est un garçon, un homme, et moi, je suis une femme. Donc, dans la tradition africaine, d'après lui, c'est lui qui, ça c'est pour le 8 mars déjà, hein, bon, on avance sur l'égalité homme-femme, et peut-être la question de l'héritage, c'est lui qui va. Qui hérite ici. Bon, nous sommes 13, hein, nous sommes nés 13. Il n'est pas le seul garçon d'ailleurs, mais c'est le seul qui est resté au village tellement longtemps qu'il a pris toutes les terres de tout le monde. Il loue certaines, il loue à qui il veut, parce que nous n'étions pas là. Et maintenant, il s'est installé en gang parce que quand on l'a convoqué, il a dit, ah, maintenant je vais faire appel à mes soldats. Il est venu s'installer. Bon, il a amené trois personnes qui m'ont accordé, je vous l'ai dit. Alors, quand je vais à la procédure, je vous explique la procédure maintenant qui favorise ce genre de gangstérisme du pauvre. Je vois le sous-préfet. Si j'ai deux options. La première option, c'est de voir le sous-préfet et d'obtenir, au bout d'un certain temps, je ne sais pas quand, peut-être que ceux qui sont autour auront déjà planté, qu'ils viennent qu'on voit sur place, sur le terrain. Et de façon à rendre la justice sur le terrain. Et avant même cette première option, il y a l'option traditionnelle, vous voyez la famille qui tient conseil et qui prend les décisions. Et il se trouve que j'ai le frère de mon père qui est encore vivant, donc il y a la mémoire du territoire, c'est le seul, et qui va être, qui, on prend des décisions à ce niveau-là. Normalement, celui qui est accusé doit s'arrêter. Parce qu'on a dit, il faut dégager, c'est pas chez toi là-bas, tu as ta part de ton terrain, tu y vas. Le deuxième niveau donc du sous-préfet qui arrive, qui se croise avec le premier, il a deux options, soit il délègue l'action au conseil, il renvoie encore au conseil qui va lui faire un rapport s'ils ont trouvé une solution, soit en passant parfois par les chefs de village ou maintenant on appelle des présidents de territoire, je sais pas comment vous dire ça, soit il descend lui-même, il fait une descente sur le terrain et il prend les décisions qui s'imposent. Et pour cela, c'est vous qui vous plaignez qui devez payer, c'est au moins sa descente sur place, 150 euros au moins, parce que vous devez payer son carburant, son déplacement sur place, il faut faire la nourriture, parce que les Africains, vous savez, il faut toujours qu'ils mangent et qu'ils boivent, il faut acheter l'alcool et tout, c'est au moins 150 euros, sinon 200 euros pour qu'ils descendent sur place et qu'ils disent, parce que vous avez dérangé, vous voyez, la citoyenneté ici, c'est incroyable, vous avez dérangé l'autorité, vous payez. Et si vous faites venir, il y a un deuxième, un autre niveau entre-temps, si c'est un troisième niveau, si vous faites un troisième étage, si vous faites venir le grand collectif, hein, où il y a un chef qui est payé par l'État, il viendra, là c'est pareil, vous payez toujours parce qu'il faut qu'il mange, qu'il boive, etc., etc., sans compter les deux sous de table. Vous donnez à la main quelque chose, c'est la tradition ici. On se demande si on est en train de faire un État ou si on est en train de construire un grand village. On se pose des questions. Et l'autre voie, c'est de passer par un huissier. Bon, tout cela aussi, avec les menaces de mort et l'huissier, vous passez par la gendarmerie. Alors, l'huissier, lui, il convoque le monsieur. C'est déjà la justice. C'est-à-dire mon petit frère qui ne viendra pas. Ensuite, je sais pas, il a eu des termes très techniques, là, j'ai oublié. Il y a deux phases. Et la troisième phase, à la troisième phase, c'est le procureur il envoie le dossier au procureur qui s'est saisi du problème. Mais là, il m'a dit, tout ça va vous coûter 150 euros au bas mot. C'est comme ça. Si vous voulez continuer, ben, vous devez payer ou être sous la loi de la menace. Et moi, dans mon cas, là où ça se complique, c'est rigolo. Vous voyez la justice ici, c'est rigolo. Là où ça se complique en plus, c'est que le procureur, l'un des substituts, je sais pas trop, à Ezeka, le chef-lieu, là où il faut aller pour la justice par rapport à ce village, c'est quelqu'un qui a grandi chez nous, comme vous voyez, des enfants égarés. Ma maman l'a pris en charge, a mis à mes petits frères, il l'a pris en charge, elle l'a pris en charge, on l'a nourri, on a fait grandir et tout et tout. Bon, lui, là, il est là-bas. Donc, mon petit frère, quand il fait tout ceci, il compte sur quoi? Un, si mon frère, mon propre frère maintenant, ça je vous fais maintenant, comment on va dire ça, l'écologie de la famille. Et là, mon propre, j'ai un petit frère qui est avocat, il compte sur lui, et puis il compte sur ce garçon qu'on a élevé comme ça à la maison, qui est là-bas, procureur ou substitut de procureur à Iseka, pour faire en sorte que le dossier ne passe pas à la justice, vous voyez? Donc ici, il suffit de connaître le procureur, il suffit d'avoir un avocat dans la famille qui est contre vous pour que, au cas où il serait contre, bien sûr, pour que devant la justice ne soit jamais rendue. Jamais. Alors, quelle est la sanction lorsqu'il y a un procureur véreux comme ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont contrôlés? Il faut se plaindre auprès de qui? Je ne sais pas. Je vais poser les questions quand j'irai à Yaoundé, auprès de la Cour suprême ou de la Cour d'appel. Comment on fait? Parce que je ne vais pas engager les magistrats ici, mais les cordes les plus corrompues, citées par la CONAC, la Commission nationale chargée de la lutte contre la corruption, c'est les magistrats, c'est les policiers, hein, les agents de l'État en premier. Enfin, les policiers, tout ce corps, la sécurité, et puis, etc. Alors, les enseignants, bien sûr. Alors, ça vous rend fou comme système, qu'un système qui est ravagé comme ça par la corruption ne puisse pas rendre la justice. Et donc, quelqu'un qui a des gens comme ça posés, il sème la terreur sur les territoires. Tout le monde a peur. Vous voyez? Tout le monde a peur. Et quand ce quelqu'un est fonctionnaire et qu'il est prêt, en plus, à passer à l'acte et à tuer des gens, mais vous êtes cuit, vous êtes cuit. Donc c'est un système fou où pour vous faire perdre votre temps, vous dépensez l'argent dans des procédures au lieu d'avancer dans ces projets. Par exemple, si vous faites un projet, un hectare de régime de plantain, vous êtes à 650 000 francs, c'est-à-dire 1 000 euros en comptant tout. Si vous devez alors trouver des solutions pour tricher, tricher, tricher. En gros, un projet ici, c'est pas moins de 1 000 euros. Ça, c'est pas possible. Vous devez alors vous faire un système de relais, en fait, c'est-à-dire vous allez financer par-ci, par-ça. C'est compliqué, c'est très compliqué. Alors, il faut voler de l'argent, il faut aller avoir des subventions quelque part. Bon, alors, ou alors vous commencez petit à petit, petit à petit. Et dans ce petit à petit, vous êtes gêné par ces gens qui vous font drainer l'argent à gauche, à droite, pour que vous ayez la jouissance paisible de votre espace, puisque mon petit frère et mon oncle lui a dit, tu dégages, et c'est pas la première fois qu'il fait des intrusions pareilles. Bah, ils n'écoutent pas. Les cousins ont dit qu'ils allaient passer à un acte de violence. Ils n'écoutent pas. Bon, alors, je continue quand même au niveau du sous-préfet et de la gendarmerie. On verra bien. Aller à l'huissier, puisque ces deux procédures qui coûtent pareil, c'est soit l'une, soit l'autre. Comme j'ai commencé par celle de la sous-préfecture, mais je vous dirai la suite. Et puis, j'ai dit tout à l'heure que c'était triste. Mais c'est pour l'Afrique, ça fait très très, ça crève le cœur, vous voyez. On est loin de l'Ukraine, hein? On est loin de l'Ukraine, très très loin. À côté de ça, que la Russie envahisse l'Ukraine, c'est du pipi de chat.